Bienvenue à Humanisons, le balado où on discute de grandes questions et de petites aussi, dans le but d'aller chercher un petit peu plus d'humanité dans nos relations avec le monde qui nous entoure. On reçoit aujourd'hui Gabrielle Forget-Thibodeau, designer et propriétaire de Gabrielle Design, une marque de prêt-à-porter slow fashion entièrement faite à Montréal. On va aborder le parcours entrepreneurial de Gabrielle, sa façon de conjuguer conviction et affaires et sa vision du futur de la mode éthique au Québec. Bonne écoute!
Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Pour commencer, est-ce que comme tu pourrais un peu nous parler de qu'est-ce qui t'a mené à créer Gabrielle Designs?
Oui. En fait, moi, je trouve ça drôle parce qu'on m'approche souvent à premier pas en tant qu'entrepreneur. Tu sais, on me demande souvent les questions sur comment j'ai fait pour devenir entrepreneur. Mais moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais voulu être entrepreneur dans ma vie. En fait, moi, je suis née, puis à 6 ans, je savais que j'allais faire des vêtements. Tu sais, j'avais vraiment comme une flamme en dedans de moi, très, très jeune. Puis j'étais intéressée par tout ce qui était le vêtement, mais au niveau de sa fabrication, tu sais, pas juste l'extérieur. Donc, rapidement, vraiment jeune, j'ai commencé à découper dans mes robes de Barbie pour en refaire des nouvelles ou faire des robes avec des Kleenex. Puis, au primaire, là, moi, c'était sûr, j'allais faire de la mode. J'en parlais tout le temps. Et je faisais de la danse aussi dans le temps, puis je participais aux semaines de production qu'on appelait. Donc, j'allais aider la directrice d'école de danse à créer les costumes. Puis, rapidement, j'ai pris des cours de couture. Puis, rendu au secondaire, c'était encore ça. Moi, j'allais être designer de mode. Mais on dirait que je comprenais pas que pour être designer de mode, faut avoir une entreprise, tu sais. Fait que, en fait, j'ai eu quand même beaucoup de blocages. Là. Mes parents, ça a été un petit peu difficile pour eux d'accepter le fait que je m'en allais en mode. Donc, j'y suis allée sous plusieurs conditions, dont celle de faire comme un double deck. En fait, j'ai ma technique en design de mode, mais j'ai aussi dû compléter des cours style un peu pour aller en administration, comme si j'avais fait sciences humaines. Fait que j'ai comme jumelé les deux ensemble. Puis, à la fin de ma technique, en fait, j'étais un peu perdue. Là. Je voulais aller en mode, je voulais être designer, mais quand tu sors de l'école, c'est rare que tu es designer tout de suite dans une compagnie, tu sais, souvent. Tu commences en bas de l'échelle. Donc, il n'y avait aucune job qui me stimulait. Toutes les offres d'emploi que je recevais, ils ne me tentaient pas. Fait que j'ai comme perdu un peu foi en ma passion, là, qui était la mode. Puis, je me suis dirigée pour faire un bac en enseignement des mathématiques au secondaire.
Revirement de situation.
Qui est vraiment la chose la moins créative, là. Tu sais, les maths, c'est la même histoire depuis le début des temps. Fait que finalement, j'ai fait 3 semaines, puis je me suis ramassée en petite boule à pleurer, puis à dire « c'est pas ma quête de vie, là, tu sais, enseigner les maths ». Fait que finalement, j'ai abandonné ma session à l'automne, puis je me suis dit « j'ai rien à faire, fait que je coupe des vêtements, tu sais, moi, c'est ce que j'aime faire ». Puis tranquillement, j'ai commencé à coudre des vêtements, puis m'imaginer mes amis les porter, par exemple. Donc, tu sais, je prenais des photos, puis j'envoyais ça à mes amis. Puis là, mes amis me passaient des commandes. Puis là, je me disais, ah, ben je vais rendre ça officiel, je vais me faire un site internet. Donc, je suis vraiment très autodidacte là, dans la vie. Je me mets à regarder comment on fait un site internet, un peu les codages, puis tout. Finalement, je crée un site internet, je crée une page Facebook, je crée une page Instagram, puis boum, on dirait que là, j'étais devenue entrepreneuse sans m'en rendre compte, tu sais. Je voulais juste que ça soit comme officiel pour mes amis. Puis finalement, ben le mot s'est passé, là, ça s'est partagé. Puis quand même rapidement, j'ai eu une bonne communauté qui s'est mise à acheter mes vêtements. Puis en lançant ma compagnie, en fait, je me suis inscrite dans un bac en marketing que j'ai complété, j'ai terminé en 2020.
Fait que ton cheminement, comme t'as toujours eu cette passion-là qui a guidé ton cheminement, mais comme l'entrepreneuriat, là, c'est venu comme un peu naturellement, là, comme par la force des choses, là.
Ouais, c'est venu par défaut, vraiment, puis aujourd'hui, je suis pas déçue, là, vraiment pas. En fait, je m'attendais zéro à faire ça. Ben, tu sais, j'ai toujours dit que j'allais avoir une marque qui s'appelait Gabrielle, mais tu sais, quand t'es jeune, tu comprends pas ce que ça veut dire, avoir une marque. Fait que, tu sais, finalement, je pense pas qu'il y aurait pu avoir d'autres façons que je fasse mes propres créations, mes propres designs en travaillant chez quelqu'un, ou presque. Donc, je suis vraiment contente, mais oui, ça m'est vraiment tombé sur la tête, là. Moi, j'ai jamais dit que j'allais être entrepreneur dans ma vie, là.
Puis, comme de ce qu'on voyait, là, t'as un modèle d'affaires assez, comme, différenciateur, assez particulier. Est-ce que tu pourrais, comme, nous parler de ce modèle d'affaires-là?
Oui. Au niveau de mon modèle d'affaires, comme je vous ai dit, moi, j'imaginais tout le temps mes amis porter mes vêtements. Donc, rapidement, je trouvais que... J'ai commencé, j'avais 21 ans. Puis je trouvais que dans l'univers du design québécois, il y avait pas beaucoup de marques encore qui s'adressaient aux jeunes de mon âge, tu sais. Puis même quand j'allais au cégep, on parlait toujours des mêmes personnes, Denis Gagnon, Marie Saint-Claire, Eve Gravel, tu sais, c'est toutes des grands designers québécois. Mais c'est toutes des vêtements trop chers, je trouvais, pour mon âge. Tu sais, quand j'ai 21 ans, j'ai pas 220$ à mettre dans une jupe, tu sais, même si je la trouve vraiment belle. C'est pas vers ça qu'on allait, tu sais, à 21 ans, on magasinait au H&M, puis au Forever, puis aux Zara, puis c'est correct, tu sais. Fait que je me disais, ah, ben je veux créer pour mes amis, mais mes amis sont pas prêtes à payer 200$ un chandail, fait que je vais essayer de faire des designs qui sont quand même moyen prix de gamme. Donc, c'est pour ça que je me suis fixée de rejoindre, en fait, nous, là, vous êtes jeunes, c'est... Mais, tu sais, rejoindre un groupe d'âge qui me rejoignait plus, mais essayer de leur proposer des produits qui sont moins chers, tout en restant québécois, en fait, en restant respectueux. Puis un peu mon modèle d'affaires, c'est qu'au lieu de sortir des grosses collections à chaque saison, moi, j'aime bien sortir des petits morceaux. Comme ça, ça me permet de vraiment rester comme à jour dans les tendances, du fait que je prévois pas des collections comme 3 ans d'avance ou 2 ans d'avance, comme on est supposé faire. Je vais comme aux 2-3 mois d'avance. Puis, c'est ça, ça permet de me revirer rapidement s'il y a une nouvelle tendance qui arrive ou si jamais, finalement, je fais quelque chose puis ça fonctionne plus ou ça me... il est comme passé date trop vite. Donc, j'ai quand même un modèle d'affaires, je veux pas dire sur commande, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment proche de mes clients puis de ce qui se passe dans la réalité, en fait, là. Puis même au niveau de la production, j'en produis une bonne partie, mais je me garde aussi beaucoup de métrages comme ça, si jamais, je sais pas, le morceau, il pogne un petit peu moins, mais je peux m'en virer de bord, étudier le tissu pour faire autre chose. Comme ça, j'ai pas de gaspillage non plus au niveau de tous mes vêtements ou ma matière première.
Ouais, c'est ça, comme tu parles beaucoup du fait au Québec, fait à Montréal, de éviter le gaspillage. Je vois que comme il y a quand même des valeurs, justement, plus sociales, environnementales, là, qui viennent... dans ton modèle d'affaires, est-ce que comme tu pourrais un peu plus nous expliquer comme la place que ça occupe dans ton entreprise?
Moi, en fait, c'était sûr et certain. Je trouvais que quand j'allais à l'école, on nous formait beaucoup pour faire de la production à l'étranger. Puis je trouvais ça spécial parce que je me disais, crime, il y a tellement de talent ici à Montréal. On est tellement... Les Montréalais, on est réputés, en fait, là, au niveau de la mode en Amérique. Puis je me disais, on a tellement des bonnes idées, on est tellement créatifs. Pourquoi est-ce qu'on ne mise pas plus sur le fait local? Puis... ben moi, je suis une personne très sensible au niveau de l'environnement au départ. Que ce soit les animaux, que ce soit faire attention aux plantes, à l'océan, par exemple. Puis justement, un peu comme vous, j'ai eu un cours de l'éthique dans mon bac. Puis on nous avait montré un film, je pense que ça s'appelait Cargo. Puis c'était toutes les transports maritimes. Puis j'étais dans mon cours, puis j'étais assise en arrière, puis je vous jure que je me retenais de pleurer. Surtout quand je voyais que pour équilibrer les bateaux, là, ils prenaient l'eau de la mer pour remplir le bateau pour qu'il soit plus lourd. Mais là, dans l'eau, il y a aussi des poissons, puis des macro-invertébrés, puis n'importe quoi qui rentre là-dedans. Puis là, ça part de la mer, mettons, en Asie, puis ça s'en vient en Atlantique. Puis là, ces gens-là, les poissons et tout, quand le bateau est vidé, ils meurent. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu. Fait que quand j'ai vu ce cours-là, au début, je prônais pas vraiment, tu sais, je disais oui, c'est fait à Montréal parce que c'est fait par moi, mais je poussais pas plus la note. Tu sais, je me disais bon, je serais pas fermée à aller chercher ailleurs si jamais ça grossit. Puis finalement, là, en voyant un documentaire comme ça, puis en me renseignant vraiment beaucoup, j'ai fait non, 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 non. Moi, je suis contre tout ce qui est importation, exportation de vêtements ou de n'importe quoi, tu sais. La pollution, oui, il y en a dans la fabrication du tissu. Tu sais, je vais être honnête que quand on produit du coton, c'est extrêmement polluant. Mais reste que j'ai besoin de la matière première quand même pour faire des vêtements. Donc, où est-ce que je peux réduire mon empreinte écologique, en fait? Puis moi, je le voyais au niveau de tout ce qui est les transports de marchandises, par exemple. Tout ce qui vient par cargo. Puis rapidement, en fait, je veux pas, en m'instruisant sur tout ce qui est environnemental, ben là, le côté social aussi a embarqué. Donc, t'sais, tout ce qui est fabrication faite par des enfants, par exemple, ou par des femmes. Juste savoir que, t'sais, il y a beaucoup de gens qui, dans les pays un petit peu moins développés que nous, t'sais, que les familles travaillent 70 heures par semaine, puis qu'il y en a qui dorment dans les usines. Qui sont des usines chimiques, qui sont des usines insalubres, c'est poussiéreux. T'sais, moi, je fais une semaine de production, puis je respire pas pendant 3 jours tellement que j'ai de la poussière de tissu, t'sais. Fait que j'imagine pas ces gens-là qui sont payés 20 cents par jour, même pas, là, t'sais. Tranquillement, quand je me renseigne sur ça, ben là, ma bataille était vraiment importante, là, au niveau de faire valoir ces valeurs-là dans mon entreprise, puis de vraiment mettre l'impact sur... Oui, il y a des compagnies québécoises, parce que le siège social il est au Québec, par exemple, mais qui font tout produire ailleurs ou ils importent d'ailleurs, mais aussi des compagnies québécoises qui font l'effort de tout faire au Québec aussi, tu sais. En fait, je suis pas gênée de partager. Au début, je voulais pas le faire sur mes réseaux sociaux. Je me disais, ah, tu sais, je veux pas trop achaler les gens avec ça, mais la dernière année, je me gênais pas de mettre des photos de compagnies, par exemple, qui payaient pas les employés, ou je partageais des articles, ou juste des statistiques au niveau environnemental de l'industrie de la mode et tout. Puis ça m'a amené quand même une belle clientèle, dans le sens que j'ai beaucoup d'échanges avec les gens, des gens qui me disent « Ah, oh, je savais pas, merci de m'avoir montré ça », ou après on se parle en privé, puis les gens sont vraiment très sensibles à ça. Je pense que notre génération, on va être une belle génération de changement. Puis je trouve que la clientèle est là, il y a beaucoup de gens qui veulent faire attention à autant à leur empreinte écologique que sociale.
C'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que pour faire un parallèle avec ce que tu me disais par rapport à l'entrepreneuriat, t'es aussi tombée dans l'activisme un petit peu sans faire exprès.
Beaucoup environnemental, là, moi c'est tout autour de moi, là, tu sais, je vous serais pas étonnée que je vous dise que je suis végane aussi, là, fait que, tu sais, ça va comme, c'est comme une prolongation de moi un peu, là.
C'est vraiment intéressant. Mettons, ton expérience personnelle avec le vêtement, tu sais, comment tu décrirais ça par rapport au fast fashion? Tu nous parlais de Forever 21, H&M, etc. Puis je pense qu'on a dû passer par cette phase-là. Est-ce que l'espèce de shift, c'est comme fait facilement? Tu sais, surtout avec tes collections, je vois, c'est un petit peu plus capsule.
Mais tu sais, le fast fashion, là, il est là pour répondre quand même à des besoins monétaires et des besoins de suivre les tendances, tu sais. Puis j'en suis victime encore, là. Je magasine encore des fois chez H&M, tu sais. C'est sûr que moi, la moitié de mon linge, je me le fais. Fait que, tu sais, quand je magasine chez H&M, c'est une fois aux 4 mois, là. Tu sais, moi, je magasine pas beaucoup. Puis moi, ça me force, en fait, d'acheter du fast fashion souvent parce que je sais le prix qu'il vaut. Donc, souvent, j'ai un blocage, tu sais. Je vais magasiner, puis je vais voir quelque chose, puis je me dis, oh, je vais me le faire, tu sais. Fait que... Tu sais, dans le fond, dans mon modèle d'affaires, je voulais un peu reprendre le concept de fast fashion, mais pas j'en fais jamais autant que Forever ou H&M, mais j'aimais le concept de on reste à jour des tendances. Et eux, à chaque 2 semaines, il y a des nouveautés, des nouvelles collections qui rentrent. Fait que, tu sais, j'essaie de suivre ce rythme-là du mieux que je peux, mais dans un modèle fait au Québec, tu sais.
Puis d'un point de vue plus logistique comme processus de production, comment est-ce que tu réussis, sans rentrer dans tous les détails, mais comment est-ce qu'on peut réussir à maintenir des prix qui sont comparables finalement à Aritzia, à Dynamite, etc. Tu sais, c'est en sachant que tu fais tout ici, puis tu fais tout un peu toi et les gens qui t'entourent. Donc.
Ben, c'est sûr que la première chose que j'ai goût de dire, c'est que je coupe sur ma marge de profit. Je suis la première, en fait, qui fait le moins d'argent là-dedans. Mais je veux couper surtout au niveau des détails, au niveau d'un vêtement, tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes vêtements sont quand même simples, tu sais, au niveau du design extérieur. En fait, plus tu ajoutes de détails, plus ça va te coûter cher au niveau de la production. Donc, tu sais, si mon chandail, moi, il me coûte 18 $ à coûte, parce que ici on est payé au salaire minimum qui est de, je sais pas, moi je pense autour de 13 $. Donc, tu sais, un chandail va me revenir à 18 $, mais si elle est capable de le coudre en dedans d'une heure, moi, c'est mon best. T'sais. Fait que c'est comme ça que je pense toujours à mes designs. Puis, ce que je fais, c'est que je vais miser sur le tissu. Donc, je vais aller chercher des beaux tissus, des belles couleurs, un tissu qui est plus de qualité. Donc, des fois, il me coûte un peu plus cher. Mais je me dis, vu que mon vêtement, il y a moins de design complexe, que j'ai le goût de dire, t'sais, va me coûter moins cher au niveau de la production. C'est là que je peux couper là, un peu plus, puis j'en fais encore beaucoup. Là, t'sais, je veux dire, j'ai une couturière qui m'aide presque à chaque mois. Puis moi, je fais l'autre moitié, en fait. Donc, t'sais, je coupe dans des coûts. Mais je mise quand même sur du volume. Donc, je sais que mes vêtements sont pas très chers, mais j'en produis une centaine. Donc, au bout du compte, en fait, ça me revient à produire 15 jupes à 200$, tu sais.
C'est un peu... Ouais, non, mais j'allais juste dire que c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu la balance. Souvent, quand les gens nous parlent de slow fashion puis d'environnementalisme, il y a beaucoup le concept, tu sais, du capsule puis de se détacher complètement de la mode puis de la... Tu sais, le côté « Ah, ça serait nouvelle tout le temps », etc. Mais je trouve ça vraiment cool, le concept que t'allies un peu, tu strikes un peu la balance entre la responsabilité puis la responsabilisation des gens puis aussi comme... Hey, on veut quand même être à jour, là.
Oui, ben c'est ça. C'est sûr que je vais proposer comme des modèles un peu passe-partout, c'est un peu basic. Mais j'essaie de tout le temps rentrer des tendances pareilles, que ce soit juste la manière qu'on le porte. T'sais, juste changer la façon dont on met un chandail, qu'on le rentre dans des pantalons, ou qu'on met un col roulé en dessous, ou qu'on crée une superposition. Mais c'est le même chandail que je vends depuis 2 ans, tu sais. Là, les gens sont comme « Ah, oh, c'est une nouveauté! » Je suis comme « Non, non, c'est le même que j'avais, mais j'ai juste montré différemment, tu sais. » Des fois, c'est juste ça, on achète des vêtements, puis après un mois, on est allé. Mais tu sais, si on essaierait juste de le porter avec juste autre chose que qu'est-ce qu'on porte tout le temps, ou juste de le porter d'une manière différente, ça fait qu'il est comme nouveau dans notre tête.
Ça, j'ai vu là, que comme tu faisais comme des genres de mini col roulé là, que comme c'est juste le oui. col, juste le col au final, comme c'est tellement, c'est vrai, comme quand tu passes, t'économises tellement de tissu pour le même résultat, là, fait que, ouais, c'est cool, puis surtout
ça
te
traîne. Oui, ben en fait, ça fait longtemps que, ça fait 2 ans que je vends des cols roulés super neutres, tu sais, blancs et noirs, puis là, moi, je porte souvent ça, puis des fois, j'ai vraiment chaud, des fois, je me sens juste coincée, tu sais, j'ai comme mon col roulé plus un chandail. Puis là, j'ai des clientes qui avaient commencé à m'envoyer des photos de ça, puis t'es comme, tu devrais en faire. Puis j'étais comme, ben oui, crème, je fais déjà des cols roulés. Pourquoi je ferais pas des moitiés de cols roulés? C'était même plus confortable, tu sais.
Et t'as quand même un bon feedback loop avec ton monde, grosso modo. Tu sais, ce que t'as, dans le fond, c'est comme moins des clientes, plus une communauté de personnes avec qui t'es en contact.
Finalement, oui, vraiment plus que je pensais. Puis, tu sais, j'essaie de répondre à tout le monde, là, sincèrement. Des fois, c'est long, mais des fois, ça me fait plaisir. Là. J'aime ça quand des clients m'envoient, tu sais, je tripe sur ce genre de modèle, penses-tu que tu pourrais en faire? Puis des fois, je leur réponds sincèrement non. Puis pas parce que c'est méchant, mais des fois, je leur explique pourquoi je pourrais pas faire ça, tu sais, juste au terme du coup. Tu sais, si on m'envoie, je sais pas, tu sais, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé « Est-ce que tu vas faire des jogging? » Puis je leur ai répondu « je pense qu'il y a tellement de jogging en ce moment, t'sais, toutes les compagnies vendent ça. Qu'est-ce qui ferait que moi, je pourrais te le vendre à un prix québécois, tu sais? Quand tu peux aller en trouver vraiment moins cher partout, puis moi, à cause que c'est fait local, il te reviendrait à 90$, tu sais. T'irais-tu vraiment le payer? Non, tu sais. Puis des fois, c'est pas que je veux pas. Moi aussi, j'y ai pensé, mais c'est qu'au final, je trouve que je mettrais pas du temps dans quelque chose qui les gens peuvent trouver facilement partout. T'sais, j'essaie quand même de me démarquer un peu avec ce que je fais. Là.
Est-ce que tu penses que les gens comme évoluent un peu vers la mentalité un peu de dépenser un peu plus pour leurs vêtements, etc.? T'sais, parce que personnellement, c'est comme un journey que j'ai fait puis que je suis rendue t'sais, plus aujourd'hui. T'sais, ça me pince plus vraiment le cœur de dépenser comme des prix comme ceux que tu affiches, mettons, parce que je me dis, ben, t'sais, c'est... basically le bare minimum, puis comme tu dis, pour avoir un prix comme ça, toi tu coupes dans ta propre marge, fait que, tu sais, c'est pour moi, je suis comme, ben c'est ça que ça coûte un chandail, c'est ça que ça coûte un pantalon, fait qu'on dirait que je suis un peu rendue là, mais je me demande, c'est quoi l'évolution de ça, est-ce que t'as vu des filles qui sont des filles, généralement?
Ben je vois des filles quand même, je comprends, j'ai plus d'exemples là-dessus, c'est sûr.
Mais c'est ça, est-ce que t'as vu comme une espèce de shift en mentalité, ou c'est comme, comment tu conçois ça?
Beaucoup plus que quand je l'ai lancé en 2017. Tu sais, en 2017, c'était tellement pas cher, on dirait que je comprenais pas que je faisais aucun argent. Mais tu sais, je vendais des chandails comme 30$. Puis on me disait déjà que c'était trop cher. Puis je me disais, 30$, tu sais, ça me coûte 12$ le faire. Puis ça m'a coûté 6$ de tissu. Puis tu sais, il me reste plus grand chose. Puis tu sais, mettons, je fais 6$ de profit. Ben là, j'ai mon imprimante à payer, mon encre, mes étiquettes. Tu sais, il y a tout qui vient avec ça. Fait que je te dirais qu'au début, je trouvais ça vraiment dur. T'sais, je me faisais beaucoup dire que mes vêtements étaient chers. Puis j'étais comme, ouais, mon H&M, ils vendent plus cher que moi. Mais c'était un peu ma tactique pour me faire connaître, tu sais. Puis ça l'a vraiment changé. Là. Même aujourd'hui, il y en a qui vont me dire, ah, c'est tellement pas cher. Puis là, je suis comme, ben là, dis-moi pas ça, parce que je vais le doubler. Fait que oui, puis vraiment, avec la pandémie, le mouvement achat local, autant que je trouve que ça l'a comme mis sur la glace des entreprises, comme je vous disais, qui est le siège social, c'est dur à dire, il est au Québec, mais que rien n'est fait au Québec, autant qu'eux aussi ont gagné en popularité que les locaux, tu sais, ceux qui font vraiment tout au Québec. Puis il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à payer pour de la qualité. Puis ça, c'est un commentaire que je me fais dire souvent. Tu sais, wow, ton produit est vraiment de qualité. Je m'attendais pas à ça. Le tissu, il est doux. Le tissu, il est le fun, quoi que ce soit. Donc, je pense que quand les gens commencent à goûter à ça, après, tu sais, même moi, ça m'arrive que je suis capable de laver mes vêtements une dizaine de fois, puis ils restent beaux. Puis je vais porter un chandail que j'ai acheté au H&M, puis après deux fois, il est tout dégueu, tu sais. Puis tu te dis, ah, ben je l'ai payé juste 20$, ouais, mais c'est 20$ de pollution, puis c'est 20$ que tu mets aux poubelles après, tu sais. Versus si t'achètes un vêtement 50$, ben ton 20$, tu sais, ton 50$, excuse-moi, il est plus avantageux pour toi, tu sais.
En termes d'effet sur ta production, etc., tu sais, comment ça t'a vécu ça, la pandémie? Autant le surge de l'achat local, comment ça s'est traduit pour toi?
Au début, quand ça arrivait, j'ai eu extrêmement peur pour ma vie. Moi, c'est mon gang-pain, tu sais, fait que j'ai fait beaucoup d'anxiété le premier mois parce que là, tout d'un coup, tous mes fournisseurs étaient fermés et mes fournisseurs locaux, veux pas, ils font affaire avec l'étranger, fait que eux aussi, il était pas possible d'avoir des tissus qui étaient mes tissus réguliers à moi. Je savais même pas si on avait le droit de sortir de notre maison. Là. On s'entend que les deux premières semaines, là, moi, j'ai fait une grosse épicerie puis je me demandais s'il fallait que je barricade mes portes. Là, t'sais. Donc, j'ai vraiment peur. Puis, ça a duré peut-être 2-3 semaines vraiment dans l'inconnu. Puis, j'ai réussi à rentrer en contact avec mes fournisseurs. J'ai leur numéro de téléphone. Puis, je leur demandais, t'sais, est-ce que il y aurait moyen que vous prépariez ma commande, puis on vous la sortez dehors, puis je vous paye en virement, n'importe quoi, tu sais. Donc, tu sais, tout de suite, eux, ils veulent, eux aussi, c'est leur gagne-pain, là. C'est difficile de juste plus rien vendre. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas encore la PCU ou n'importe quoi, tu sais. Il n'y avait pas d'aide gouvernementale pour les entreprises encore. Fait que rapidement, en fait, j'ai pu avoir accès au moins à mes tissus de base. Donc, j'ai pu continuer à vendre ces vêtements-là, puis moi, j'ai été une des premières compagnies qui s'est lancée dans la fabrication de masques. Dès le mois d'avril, en fait, moi, ma soeur est infirmière. Donc, c'est elle qui me dit « Gabi, on manque de masques à l'hôpital. Est-ce que tu penses que tu peux nous en faire? » Donc, au début, c'était comme mon entreprise. C'était elle et ses amis. Plus tellement, j'ai voulu mettre ça officiel. Plus tellement, ça l'a explosé. Donc, de avril à mai, j'ai vendu là, des milliers de masques, là, sincèrement, ça n'arrêtait plus. Puis ça m'a vraiment aidé à avoir moins, ben tu sais, pas avoir moins peur, là, mais ça m'a donné un bon coussin parce que c'était tellement incertain ce qu'il allait avoir pour le reste. Mais au mois de juin, j'étais vraiment tannée de gérer tout ce qui était masque, donc j'ai arrêté complètement. Puis le mouvement de achat local était déjà bien commencé, puis j'ai participé à plein de concours de compagnies québécoises qui se rassemblaient ensemble puis qui faisaient comme des gros concours. Fait que ça me donnait une grosse visibilité à ce moment-là, puis moi ça va juste en grimpant en fait là, depuis la pandémie là, tu sais, je suis vraiment chanceuse là, dans une situation qui est plate là, mais je me suis revirée de bord, puis j'ai travaillé avec ce que j'avais, en fait. Là.
Vraiment cool d'entendre, honnêtement, que ça fait du bien, des bonnes nouvelles de pandémie, là.
Mais je pense, en fait, que au niveau du vêtement, ça a été vraiment difficile pour les entreprises du genre Aubainerie, Simons, toutes les compagnies qui ont des magasins dans des centres commerciaux et que leur site Internet n'était pas soit pas fonctionnel, ou soit pas mis à jour, ou soit pas adapté, en fait, à l'achat en ligne. Puis moi, c'est toutes des choses qui étaient déjà bien mises en place, parce que moi, j'ai commencé à vendre en ligne, tu sais. Donc, je pense que toutes les gens qui avaient des vêtements plus locaux, une plus grande flexibilité sur l'inventaire ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, si j'avais une collection de prévue, moi, en fait, là, j'ai lancé une collection 2 jours avant la pandémie. Mais j'avais aucune... On ne savait pas que ça allait arriver. Puis comme de fait, tout le monde a eu peur. C'est vraiment normal. Fait que mes ventes de ce mois-là, là, je pleurais. Je me disais, oh, mon Dieu, j'ai plein de vêtements que personne ne va acheter parce que là, plus personne ne peut faire de l'argent, tu sais. Fait que, tu sais, comme finalement, ça l'a passé, là. Mais, tu sais, je me dis, moi, au moins, j'avais la chance de... Tu sais, la production que j'ai faite, ben je l'ai pas... Il me reste une marge de manœuvre, tu sais. Fait que je peux réutiliser les tissus, faire autre chose, mais je me dis, les compagnies qui magasinent, qui font des achats un an d'avance, là, tu sais, ils peuvent pas dire stop. Tu sais, envoie-moi à la poste, ça marchera pas. Mon magasin, il est fermé jusqu'à je sais pas quand, tu sais. Fait que je pense que pour eux, ça a été beaucoup plus difficile que pour ceux qui font du vêtement local, en fait.
On a fait parler de, tu sais, tout l'aspect social, etc., puis de ce que tu fais pour ça. C'est quoi tes plans d'un point de vue, tu sais, parce qu'on parlait du coton, notamment, qui est un tissu qui... Bon, moi, j'ai mon avis personnel, puis je pense que ça vaut mieux ça que des tissus composés, etc. Mais, tu sais, c'est quoi tes plans? Parce que j'ai vu aussi que sur ton site, t'es super ouverte aux idées, puis tout, puis, tu sais, t'invites les gens, t'es comme, si vous avez des suggestions pour moi, hit me up! Fait que je sais pas si t'as des annonces environnementales ou une direction que tu veux prendre par rapport à ça?
C'est qu'on dirait que pour garder un prix qui est quand même raisonnable, faut que je coupe quelque part, on dirait. Puis je me dis, je veux pas couper dans la qualité ou dans mes designs. Fait que c'est sûr qu'au niveau des tissus, tu sais, souvent les tissus qui sont bio, qui sont fabriqués à partir de bouteilles, oui, c'est le fun, t'as entendu ça. Mais c'est pas des tissus qui réagissent nécessairement bien à un lavage quotidien. Tu sais, c'est des tissus qui, après comme 2-3 lavages, ils ont pas de tests chimiques dessus, ils ont pas rien. Fait que ça fait que ils restent pas aussi beaux longtemps que des tissus un peu plus dommageables. Puis ça, c'est une réalisation que j'ai faite en testant, tu sais. Fait que là, je me disais, bon, je trouve ça vraiment cool, tu sais, les maillots de bain faits en bouteilles de plastique, mais au niveau de la longévité du produit, c'est pas encore assez adapté. C'est pas encore à... T'sais, on va pas porter nos vêtements chez le nettoyeur, là. On met ça en boule dans la machine à laver, puis t'sais, faut que je pense à ça quand je vends un produit, en fait, là. Fait que, t'sais, oui, je reste alerte, là. Je reste à jour, puis j'essaie de me renseigner. Puis je fais beaucoup de tests. Moi, tous mes tissus sont testés, lavés avant de les produire pour voir comment le tissu réagit. Mais c'est sûr que dans le fond, ce que je peux faire, c'est toujours continuer de faire la production au moins locale, au moins ici. Toutes mes achats, en fait, sont faits ici. Je commande rien de nulle part. Mais au niveau des tissus, ça reste encore vraiment à travailler. Puis c'est sûr qu'il va y avoir plein de choses qui vont s'en venir prochainement. Puis je vais les tester, c'est sûr, c'est sûr.
C'est vraiment cool à entendre, là. On voulait en parler un peu plus tard, je pense aussi, d'une histoire d'analyse de cycle de vie, etc. Puis de le choix le plus environmentally friendly, c'est pas celui nécessairement qu'il est, c'est ça,
qu'on pense, en surface. Je le sais, tu sais, je veux dire, j'ai quand même eu des cours sur les textiles, là. Je suis une professionnelle. Puis je le sais que c'est polluant, je le sais, c'est extrêmement polluant. Puis c'est vraiment une sphère que j'essaie de compenser ailleurs, tu sais. Comme par exemple de tout imprimer mon packaging, par exemple, sur des cartons recyclés ou d'envoyer ça dans des enveloppes compostables, tu sais. J'essaie de faire attention sur tout le reste pour compenser, mais...
Donc c'est vrai que, mettons, avoir un produit avec un tissu qui est peut-être plus environnementalement friendly, mais qui comme se dégrade rapidement, et un autre qui va durer plus longtemps, comme on dirait, comme on sait jamais qu'est-ce qui est meilleur au final, mais
parce que c'est ça souvent que, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises là qui misent sur ça. On a un produit fait de matière recyclée, tu sais, comme oui, le concept il est super cool, mais il est pas adapté encore à notre mode de vie, tu sais, comme je l'ai dit, juste la façon qu'on lave nos vêtements. Tu sais, moi j'ai des clientes qui me disent, ben moi je mets ton chandail dans la sécheuse, tu sais, après si je te voyons. Si je te fabrique un vêtement en chanvre puis tu le mets dans ta sécheuse, tu vas pleurer, là, tu sais. Même si je le marque sur le vêtement, de pas le mettre à la sécheuse, c'est pas tout le monde qui fait attention, c'est pas tout le monde qui... Il y a pas encore beaucoup de monde qui se soucie de ça non plus, là.
Non, je trouve ça super intéressant, honnêtement, comme... je pense qu'un aspect qu'on voulait vraiment aborder aussi, c'est comme l'espèce de recherche puis de conscience un petit peu dans ton entrepreneuriat, dans tes activités de tous les jours. Tu sais, t'es vraiment, comme tu dis, t'es expert dans ton domaine, tu sais, tu connais ça, t'es dessus puis tout. Puis c'est vraiment cool de voir que, tu sais, on n'est pas dans un aspect de... Tu sais, tu le fais pas pour le name recognition, un peu dans le... Ah, ben, tu sais, moi, je fais ça avec des bouteilles de plastique, maintenant, un petit peu greenwashing style, là. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est intéressant de savoir que tu fais ça selon les règles de l'art, là, c'est vraiment cool.
Mais en fait, je trouve que t'apportes comme un point intéressant parce que si vous focussez, tu sais, si vous faites des recherches, puis vous allez voir toutes les gens, toutes les entreprises locales, que les designers sont des gens qui ont eu des techniques, des bacs, des formations, ces gens-là n'utilisent pas ces tissus-là encore parce qu'on le sait comment ça réagit. Versus, tu sais, là, c'est la mode, on dirait que... on va toucher un sujet chaud, mais tous les influenceurs maintenant parlent des brands, tu sais, puis on dirait qu'eux, ils misent tout le temps sur des aspects comme ça, parce que, tu sais, c'est une façon pour eux de se différencier, puis c'est pas des experts en design ou en textile ou n'importe quoi, fait que pour eux, c'est comme une valeur ajoutée de dire, ben, je connais rien, ben, je connais rien. J'imagine qu'à un moment donné, ils s'éduquent un peu en ayant la main à la pâte, mais tu sais, dans le sens que je suis pas une experte, mais je peux vous proposer un produit écologique, tu sais. Mais c'est ça, si vous regardez, en fait, toutes les gens qui connaissent le domaine, ben on n'utilise pas ça encore parce qu'on sait que ça a pas encore les meilleurs résultats que ça pourrait avoir, en fait.
Vraiment intéressant, hein? Des secrets de l'industrie. Moi, je pense que on a pas mal parlé de tout ce qu'on voulait. Je sais pas si t'avais des trucs à nous dire, si t'avais des trucs à nous rajouter.
Ben, des projets, montrer que je change d'idée aux 3 mois. J'ai tout le temps plein de projets. Puis à chaque fois, il faut que mon chum, il me calme. Puis il me dit, là, reconcentre-toi donc sur ce que tu voulais faire le mois passé. Puis je suis comme, ah oui, c'est vrai. Mais des projets, là, c'est sûr que je viens d'engager ma première employée qui va venir travailler avec moi. Fait que déjà, ça, c'est comme un... Ça va vraiment me faire du bien. Puis je trouvais que je tirais un peu de la patte, tu sais, dans le sens que ça allait tellement grossir rapidement qu'il faut que je m'adapte aussi. Donc, elle va vraiment pouvoir me donner un petit souffle. Puis, ben j'aimerais ça créer plus de morceaux par mois que j'étais déjà capable de le faire. Donc, à deux, je pense que ça va bien aller. Sinon, au niveau projet, tu sais, je me rends compte que les gens, ils s'intéressent beaucoup à l'artisanat, tu sais, un peu... Tu sais, au secondaire, avant, ma mère, il y avait des cours de couture. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais tellement jalouse. T'sais, nous, on avait des cours d'histoire encore, c'est fatigant. Mais en tout cas, je trouve que j'ai plein d'amis là, qui veulent coudre des affaires maintenant puis qui me demandent, tu sais, ils m'envoient une photo puis ils sont comme, serais-tu capable de le coudre? Puis moi, je leur dis non. Fait que...
C'est l'honnêteté avant tout.
Fait que j'aimerais ça donner des cours de couture, en fait, par petit groupe. Là. J'ai déjà annoncé un peu, puis pour vrai, j'ai eu comme 300 réponses là, de gens qui voulaient. Fait que j'étais comme OK. Puis ça serait un projet que j'aimerais faire cette année. T'sais, j'ai un grand atelier, j'ai comme presque 1000 pieds carrés. Fait qu'il y aurait de la place pour installer des gens. Puis j'aimerais ça, c'est ça, donner des cours de couture... aux gens que ça les intéresse, que ça soit des experts ou pas des experts, c'est ça qu'on passe par la base où on va un peu plus haut au niveau des difficultés. Donc ça serait des projets. Sinon, tu sais, c'est que cette année c'est tellement encore incertain que j'essaie de pas me lancer dans le vide non plus parce que faut que je fasse attention si je veux continuer à manger là, tu sais.
Ben je pense que ça peut tirer à la fin. C'était vraiment une belle discussion, puis on va continuer à te suivre tes projets et tout, j'ai hâte de voir. Bon, ben merci beaucoup pour ton temps.
Merci pour l'écoute. On est ravis de pouvoir partager ces réflexions-là avec vous. On vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour un épisode qui explorera d'autres dimensions de la mode éthique et durable. Humanisant est un projet rendu possible par le groupe Humanitaire et propulsé par Ala3Média. Thank you.